Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus, évidemment, ne peut que faire allusion à la manne, cette nourriture donnée au moment de la sortie d'Égypte pendant tout le parcours dans le désert. Mais en faisant allusion à la manne, il dit bien que cette nourriture n'était qu'une nourriture purement terrestre. Eux, ils sont morts, dit-il à propos des Juifs de cette époque-là. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra éternellement, vivra pour toujours. C'est dire que dans l'Ancien Testament, il y a vraiment une préfiguration qui est proposée, qui est celle de la manne. On a d'ailleurs entendu dans la première lecture aussi une façon de comprendre cette époque. Le Seigneur t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ainsi, cette nourriture était vraiment considérée comme venant de Dieu, comme divine d'une certaine façon. Mais en même temps, Jésus relativise la chose en disant que ce n'était qu'une annonce, une préfiguration, et que le véritable don que Dieu veut faire d'une nourriture divine, c'est le don de son corps et de son sang. C'est l'Eucharistie, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et nous avons entendu comme évangile un passage tout à fait significatif du chapitre 6 de Saint Jean, qui est tout entier une méditation du pain de vie. Ce passage significatif est la fin de ce chapitre où Jésus dit clairement qu'il s'agit non pas seulement de croire au don qui nous est fait, mais encore vraiment de manger. Et Jésus va aller plus loin en disant même de croquer, pour bien souligner le réalisme eucharistique et l'incarnation de cette nourriture qui nous est faite. Lorsque Saint Jérôme, au IVe siècle, a traduit les Écritures du grec en latin, lorsqu'il a voulu traduire le « Notre Père », « Notre pain de ce jour, donne-le nous », il est tombé sur un mot grec qui est absolument unique dans toute la langue grecque, donc difficile de trouver un parallèle ailleurs, intraduisible donc. « Notre pain de ce jour », c'est ce que nous disons dans le « Notre Père », « Donne-le nous aujourd'hui ». Et Saint Jérôme a traduit « Notre pain supersubstantiel ». supersubstantiel, un mot latin, et qui voulait effectivement exprimer à quel point c'était un don qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et en même temps, saint Jérôme témoignait que dans un évangile qui n'a pas été retenu par le canon des Écritures, l'évangile aux Hébreux, il avait trouvé le mot en araméen qui était le mot « notre pain de demain ».« Notre pain de demain, donne-le-nous aujourd'hui ». C'est encore faire allusion au fait que nous serons nourris éternellement par la présence divine dans la gloire éternelle. Ainsi, ce don est tellement grand, immense, que nous ne pouvons pas le cadrer dans notre propre compréhension intellectuelle. On comprend que lorsque Jésus en a parlé, c'est provoqué des remous dans la foule et que les Juifs aient pu dire « Mais comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Nous ne sommes tout de même pas des anthropophages. Et Jésus a insisté en disant « Mais c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Autrement dit, il fait comprendre que ce don qui nous est proposé est une nourriture qui nous travaille dimanche après dimanche pour nous diviniser et nous faire parvenir vers la gloire éternelle, vers la résurrection. « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour », ajoute Jésus. Et pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit de manger, vraiment, et que ce n'est pas symbolique, comme on l'a trop dit, il y a ce mot qui est introduit dans le texte grec, « qui mâche ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Celui qui me mâche vivra lui aussi par moi. Qui mâche ce pain vivra à jamais. » Ça sonne pas très bien en français, vous sentez. Mais en même temps, voilà, ça nous fait bien comprendre qu'il s'agit de recevoir le don incarné de la vie divine à travers l'Eucharistie. Et que ce n'est pas seulement du pain ni le symbole de la chair du Christ, mais que c'est vraiment sa chair. Et Jésus nous dit clairement qu'elle nous donne il nous fait trois dons à travers cela. Le don de sa présence, ce qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui, sa présence en nous. L'autre don, c'est le don de la vie divine. Celui qui me mange vivra par moi. Nous vivons par la puissance de la vie divine en nous. Et puis, le troisième don, c'est celui de la vie éternelle. Celui qui me mange vivra à jamais. Dans l'encyclique Magnifica Humanitas, que je vous suggère de lire, d'abord parce que ça nous permet de repasser les fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Les trois premiers chapitres sont comme une révision des fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, et comme généralement on n'en sait pas beaucoup à ce sujet, c'est pas mauvais de faire une petite révision. Mais il y a ensuite d'autres chapitres sur l'intelligence artificielle, évidemment. Et vers la finale de la lettre du pape, il y a des considérations sur la spiritualité. Et le pape nous dit que la spiritualité dont nous avons besoin pour aujourd'hui est une spiritualité eucharistique, dit-il. C'est-à-dire une spiritualité de l'unité ecclésiale dans l'amour. Souvent, le pape Léon XIV insiste sur l'unité dans l'Église, et l'unité qui est là aussi fortifiée et construite par le don de l'Eucharistie auquel nous communions. Vous avez remarqué dans la seconde lecture très brève, tirée de la lettre aux Corinthiens, comment saint Paul a cette même perspective lorsqu'il dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Il insiste sur cette unité, et on comprend bien que Léon XIV fasse ressortir cet aspect en nous disant que cette spiritualité eucharistique est une spiritualité de l'unité ecclésiale dans l'amour, et il ajoute l'incarnation et Pâques révèlent Dieu qui entre dans notre condition humaine et la transfigure par le don de soi. Ce don reste présent et agissant dans l'Eucharistie. Jésus a fait don de sa personne et ce don reste présent et agissant dans l'Eucharistie. Et on pourrait dire que l'Eucharistie est une nourriture pour nous pousser au don de nous-mêmes, pour fortifier en nous le don de nous-mêmes à travers tout ce que nous avons à vivre. C'est la nourriture de l'amour véritable. L'amour véritable est un don de soi. Alors, communion avec désir, communion avec foi, et conscient que le Seigneur nous fait vivre une expérience de pauvreté, comme il était dit dans la première lecture, et que nous avons besoin de ce sacrement pour vraiment aimer au jour le jour et laisser le Seigneur construire l'unité, le corps du Christ.